Chapitre 2. La vie de saltimbanque a donc commencé pour le jeune noble. Les comédiens doivent se rendre dans un château pour donner une représentation. Après avoir dîné et dormi dans une auberge, ils se préparent pour se mettre en route. Peu avant leur départ, une fillette de 8 ou 9 ans, très maigre, qui a passé la nuit sur un banc dans l'auberge, sort en courant et s'enfonce dans un petit bois au bord de la route. Elle entre dans une cabane et réveille un homme endormi. « C'est toi, Chiquita ?» dit l'homme qui a environ 30 ans. « Quelle nouvelle ? Tu as vu quelque chose d'intéressant à l'auberge ?»«
Hier soir, un chariot est arrivé avec des voyageurs. Il est plein de grands coffres. »«
Parfois, il n'y a rien dans ces coffres, » dit l'homme.
« Peut-être, » répond Chiquita. « Mais il y a 3 dames. » Et elle porte de beaux vêtements. L'une d'elles, la plus jolie, a autour du cou un collier de perles blanches. Qu'il est beau, magnifique même. Si tu coupes le cou de la dame, tu me donneras le collier, mon bon Agostine.
Oui, répond l'homme. Tu le mérites. Combien as-tu compté d'hommes ?
Oh, 6. Il y en a un qui est très fort. Et un autre qui doit être un gentilhomme, même s'il est mal habillé.
« 6 hommes ?» dit Agostine pensif. « Ont-ils des armes, Chiquita ?»«
Le gentilhomme a son épée. Les autres, je ne sais pas. Elles sont peut-être dans le chariot. »«
Bon, on va quand même préparer l'embuscade. Des coffres, des beaux habits, un collier de perles. J'ai travaillé pour moins. »
Aidé de Chiquita, Agostine sort des mannequins de paille, armés et semblables à des soldats, qu'il place au bord de la route. Puis, Chiquita à ses côtés, il s'allonge dans l'herbe pour attendre le chariot. Pendant ce temps, les comédiens ont pris place dans le chariot et se mettent en route. Cigognac, l'esprit agité par cette nouvelle vie aventureuse, préfère marcher à côté du chariot. Le soleil commence à se lever. Le chariot avance lentement. En approchant d'un petit bois, le baron croit voir sur le bord du chemin des êtres bizarres plantés comme en embuscade. Comme ils sont parfaitement immobiles, il les prend pour des morceaux de bois et se met à rire de sa confusion. C'est alors qu'on entend une forte détonation. Toute la troupe s'éveille en sursaut. Les jeunes femmes se mettent à pousser des cris aigus. Debout, à la tête du chariot, d'où les comédiens essaient de sortir, Agostine, un couteau au poing, crie d'une voix forte.
« La bourse ou la vie ? Toute résistance est inutile. Au moindre signe de rébellion, ma troupe va vous tuer. »
En entendant la menace du bandit, le baron dégaine son épée et fonce sur lui. Agostine pare les coups du baron, puis balance son bras d'un mouvement sec et envoie son couteau vers le ventre de Cigognac. Ce dernier fait un bond de côté et l'arme d'Agostine tombe un peu plus loin. Agostine pâlit, car il est désarmé. Mais, comptant sur un effet de peur, il crie à ses mannequins.
« Feu, vous autres !»
Les comédiens, effrayés, se réfugient derrière le chariot. Cigognac lui-même, malgré son courage, ne peut s'empêcher de baisser un peu la tête. Chiquita, cachée par un buisson, a vu toute la scène. Comprenant que son ami est en danger, elle se met à ramper comme un serpent sur le sol, ramasse le couteau, se relève et court le donner à Agostine. Celui-ci s'apprête à lancer une nouvelle fois son couteau, quand une main de fer saisit son bras par derrière et serre si fort que l'homme croit que son bras va se casser. Il ne veut pas se retourner, car il a peur d'être tué par le baron. La douleur devient si violente qu'il finit par lâcher son couteau. C'est le tyran qui a rendu ce service à Cigognac. Tout à coup, l'homme pousse un cri.
« Mordius ! Une vipère me pique la jambe !»
En effet, Chiquita lui mord le mollet pour libérer Agostine. Le tyran, sans lâcher le bandit, secoue la petite fille et l'envoie rouler à 10 pas sur le chemin. Le matamor se précipite alors, prend le couteau et le met dans sa poche. Pendant cette scène,
Le soleil est apparu à l'horizon et éclaire les mannequins.
« Ah !» dit le pédant. « Les aides de ce bandit n'allaient pas intervenir. Regardez, ce sont des hommes de paille !»«
Vous pouvez venir, mesdames, » dit le baron aux comédiennes. « Il n'y a plus de danger. » Agostine, désolée de l'échec de sa ruse, a un air qui fait pitié. Près de lui se tient Chiquita, à la fois triste et furieuse. Le tyran maintient le bras du bandit avec moins de force et lui dit de sa grosse voix tragique « Tu as fait peur à ces dames, et tu mérites d'être pendu. Mais j'avoue que ton stratagème pour voler les bourgeois est assez comique, et, comme acteur, je l'apprécie.
Maintenant, pars et laisse-nous poursuivre notre retour. Tiens, voici deux pistoles pour boire à notre santé. »
Isabelle prend dans le chariot un grand morceau de tissu qu'elle donne à Chiquita.
« Oh, c'est le collier de perles que je veux, » dit l'enfant.
La comédienne le défait et le passe au cou de la petite voleuse.
« Vous êtes bonne, » dit Chiquita. « Je ne vous tuerai jamais. »
Et elle part en courant, suivie d'Agostine.
« Vous vous êtes conduit comme un héros de roman, » dit Isabelle à Cigognac, « et grâce à vous, nous pouvons voyager en sûreté. »
« Ce danger n'était pas très grand. Pour vous protéger, je suis prêt à tout. »
Ce sûr, ils reprennent leur route vers le château de Bruyère. Enfin, par une belle matinée, ils atteignent leur but. Le château est magnifique et respire la prospérité. Le marquis de Bruyère, qui de loin a vu venir le chariot, attend les comédiens sur le perron de sa demeure. Quand ces derniers arrivent, il leur fait un signe de main amical, sans doute dû à la présence du baron qu'il a reconnu. Puis il descend quelques marches de l'escalier. À ce moment-là, Zerbine, la soubrette, s'apprête à descendre du chariot. Elle regarde Cigognac, lui demandant son aide, mais comme il est occupé avec Isabelle, elle lève les yeux vers le marquis d'un air suppliant. Le marquis de Bruyère, comprenant son appel, s'approche vivement du chariot, mais la soubrette s'élance et, faisant mine de perdre l'équilibre, elle entoure de son bras le cou du marquis. « Excusez-moi, » dit-elle au marquis, en simulant une confusion qu'elle ne ressent pas. « J'ai cru que j'allais tomber et je me suis retenue à votre cou. Une chute peut être grave pour une comédienne.
Permettez-moi de considérer ce petit accident comme une faveur, » répond le seigneur de Bruyère, ému d'avoir eu un instant la jeune femme dans ses bras. Puis le marquis donne l'ordre à ses serviteurs de conduire les comédiens à leur chambre. Une fois dans sa chambre, Cigognac ouvre son maigre bagage pour se préparer à la soirée, mais il n'y trouve rien d'élégant. C'est alors qu'on frappe à sa porte et le pédant apparaît dans la pièce. Avec mille révérences, il s'approche du baron qui tient dans sa main une chemise en bien mauvais état.
« Cette chemise a beaucoup vécu, me semble-t-il, » fait-il.
« En effet, et elle montre ma misère, » répond Cigognac. « Mais je n'ai rien de mieux, et cela me déplaît de me présenter ainsi devant le marquis, qui sait qui je suis. »
« Ne vous inquiétez pas, » lui répond le pédant. « Nous autres comédiens, nous avons tout ce qu'il faut. J'ai dans un coffre un habit fort propre, en velours noir, avec du ruban rouge, qui vous ira fort bien. »
Bientôt, la toilette du baron est faite. Quand Cigognac se regarde dans la glace, il n'en croit pas ses yeux. Ce n'est plus le Cigognac pâle, triste, lamentable, mais un Cigognac jeune, élégant, superbe. Peu après, les comédiens se rendent dans la salle où on leur sert un agréable dîner. Puis ils vont représenter la pièce que le marquis a choisie devant un grand nombre d'aristocrates, amis du marquis et de la marquise. Après le spectacle, les comédiens vont se reposer. Cigognac accompagne Isabelle jusqu'à sa chambre, puis, au moment où il se dirige vers la sienne, il aperçoit au fond du couloir un personnage mystérieux et qu'il ne parvient pas à reconnaître entrer dans la chambre de Zerbine. Il est un peu étonné, mais préfère être discret. Le jour suivant, la troupe fait ses préparatifs de départ, puis le chariot reprend sa route. Les comédiens veulent se rendre à Poitiers, en donnant de temps en temps des représentations dans différents villages. À un carrefour, nos amis trouvent une belle voiture qui semble attendre quelqu'un. Un valet fait signe à la troupe de s'arrêter.
Que veulent-ils ? Demande le tyran.
Mes chers camarades, dit alors Zerbine, je dois partir quelque temps, mais ne vous inquiétez pas, je vous rejoindrai bientôt. Je suis comédienne dans l'âme et je ne peux vivre sans le théâtre.
Sur ce, elle descend du chariot avec ses bagages et monte dans l'autre voiture.
Ce départ est imprévu, dit le tyran. Mais peu importe, nous allons continuer notre aventure sans problème.
En chemin, Cigognac parle avec Isabelle. Vous avez les manières d'une dame de haut rang, et cependant vous vivez avec cette troupe de comédiens. C'est étrange, non ?
Oh non ! Vous savez, mon histoire est toute simple. Je suis né dans le monde du théâtre. Ma mère était une comédienne qui jouait les princesses tragiques. Elle était fort belle. Un puissant seigneur est tombé amoureux d'elle, et ils ont eu une liaison qui a duré de longues années. Je suis le fruit de cet amour. Malheureusement, pour des raisons d'État, il a dû partir. J'avais 7 ou 8 ans. Puis ma mère est morte et le pédant s'est occupé de moi.
Avez-vous une preuve de la liaison de votre mère avec cet aristocrate ?
J'ai une bague d'améthyste où est gravé son blason, dit Isabelle. C'est la seule chose que ma mère a gardée de lui. Je vous la montrerai un jour.
Le voyage se poursuit avec des haltes pour les représentations. Les recettes ne sont pas très bonnes et la troupe a du mal à survivre. Ce jour-là, il traverse un paysage triste et il fait froid. Bientôt, la neige commence à tomber et le vent souffle fort. Tout cela renforce la mélancolie des comédiens. Les femmes sont dans le chariot et les hommes marchent lentement en luttant contre les éléments. Matamor, que le vent empêche d'avancer, reste un peu en arrière des autres. Enfin, la tempête se calme. C'est alors que le pédant demande « Où est Matamor ? Le vent ne l'a sûrement pas emporté sur la lune. » « En effet, » ajoute le tyran. « Je ne le vois pas. »«
Ohé, Matamor ! Ohé ! Réponds à mon appel !»«
Il faut aller à sa recherche, » dit le pédant.
Le tyran, le pédant et Cigognac se mettent en route. Ils crient de toutes leurs forces.
« Matamor ! Matamor ! »
Personne ne répond. Enfin, Cigognac semble voir, au pied d'un arbre, une figure bizarrement droite et immobile. Il prévient ses compagnons. Il se dirige en courant vers elle. C'est bien le pauvre Matamor. Il ne bouge plus et est blanc comme un linge. Le bon Matamor vient de quitter le théâtre de la vie pour le théâtre de l'autre monde.
« Qu'allons-nous faire de lui ?» demande le tyran. « On ne va pas le laisser là. »«
Non, certes, » dit le pédant. « Demain, nous l'enterrerons dans le village voisin. » Une fois cette triste tâche accomplie, la troupe, désolée, reprend sa route. Mais il est difficile de continuer les spectacles sans la soubrette et surtout sans Matamor.
« Quelle pièce allons-nous jouer ?» demande un jour Scapin.
Cigognac demande alors la parole. Je n'ai pas le talent de Matamor, mais je vais tout faire pour le remplacer. Je suis votre camarade, et je veux l'être entièrement. Je ne m'appelle plus Cigognac, car comme je succède à Matamor, je prends le nom de Capitaine Fracasse.
Vive le Capitaine Fracasse !
S'écrie la troupe en signe d'acceptation. Et tous poursuivent leur chemin, heureux et soulagés.